Merci Père, parce que ta parole est la vérité, la lumière. Elle nous éclaire sur notre chemin et elle nous révèle, Seigneur, des choses cachées que toi tu as voulu révéler. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour saisir cette parole et la mettre en pratique. Ce que nous voulons faire, Seigneur, avec ta grâce, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un passage dans Jean 8, à partir du verset 12, où Jésus s'adresse à la foule et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je saute quelques versets, je ne vais pas lire tous les passages, bien qu'ils soient très importants. Au verset 21, Jésus dit encore « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Et un peu plus loin, verset 23, il dit « Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Mais si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et ensuite au verset 31, Jésus dit à nouveau à ceux qui ont cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Nous sommes aux alentours de l'an 30, de notre ère, hein, à Jérusalem. C'est l'automne, comme maintenant, comme chaque année. Et à ce moment-là, Jérusalem, tous les fidèles juifs qui pratiquent le judaïsme, ils ont pu faire le chemin jusqu'à Jérusalem pour fêter laquelle fête? La fête des... Vous ne connaissez pas la fête qui est fêtée à l'automne et qui... La Soukhot. Voilà. Alors il y a plusieurs mots, je ne vais pas rentrer dans le détail des mots. Hein. La fête des huttes, la fête des tentes, et certains parlent de la fête des tabernacles, et aussi la fête des... Il y a deux fêtes, hein, qui sont fêtées en même temps, à ce moment-là, lorsqu'ils viennent à Jérusalem. Il y a une sorte de superposition de deux fêtes. Pardon ? Qu'as-tu tu là sur la langue ? Non, c'est pas... non, ah oui, alors tu es pas loin, parce que juste un peu avant, c'est-à-dire au mois de septembre, fin septembre, c'est la Rosh Hashanah, c'est-à-dire la nouvelle année, c'est vrai. Mais la fête après, bon, ça c'est le passage d'une année à l'autre, mais en octobre, donc début octobre, il y a la fête des huttes, ou des tentes, ou voilà, le tabernacle, et une autre fête qui se superpose, on fête les deux fêtes en même temps, à ce moment-là, en tout cas en l'an 30, c'était le cas. Non. Oui, alors, effectivement, il y a aussi Yom Kippour. Au moment de la Rosh Hashanah, il y a le Yom Kippour, le Grand Pardon, etc. Mais la fête, ça c'est des fêtes religieuses, enfin c'est l'événement religieux qui est fêté par les prêtres et tout ça. Mais la fête où tout le peuple monte, et Jésus est monté, là les passages que je viens de lire, c'est au moment où Jésus est monté pour cette fête-là. C'est la fête des récoltes. Voilà. Alors, on récolte quand? En automne, les raisins, vous savez, dans les magasins maintenant, les fruits et tout ça sont beaucoup moins chers parce que on récolte. Hello? Alors bon, on est un peu déformé nous par Thanksgiving qu'on fête ici, qu'on va fêter cette année, parce que les Américains le fêtent en novembre. Mais au Canada, ils le fêtent pas en novembre. Moi, j'étais 2 ans au Canada et dans les églises, on le fête en octobre. Et en France, ici, en Europe, on le fêtait en octobre. Ça fait des récoltes, ça fait des moissons. Vous voyez ? Dans l'Église catholique, entre autres, qui est l'Église officielle en France, enfin, qui a été, il y a toujours eu la fête des récoltes. Okay ? Parce que c'est à ce moment-là qu'on se réjouit. Donc c'est une fête de réjouissance. Il y a deux fêtes qui se superposent à ce moment-là, la fête des huttes, des tabernacles, etc. C'est de se réjouir des récoltes. Et se rappeler, la fête des huttes, c'est un rappel de quoi? Parce que vous voyez, les fêtes, en tout cas à Jérusalem, c'était pour se rappeler, tous les ans, on se rappelait à Pâques, le passage de la mer Rouge, on se passait la Pentecôte et la fête des huttes et des récoltes, c'était pour se rappeler quoi ? Et la fête des huttes, c'est pour se rappeler quoi ? Voilà. C'est se rappeler qu'un jour, eh bien, c'était pas comme aujourd'hui, les magasins n'étaient pas remplis de vivres et de ce qu'on pouvait acheter. Bon, là, j'actualise la situation de Jérusalem. Mais qu'ils ont passé au désert. Et dans le désert, il n'y a rien. Et dans le désert, il n'y a rien. Et c'est pour se rappeler, parce que chaque fête a un enjeu pédagogique, pour se rappeler qu'on est voyageur et pèlerin sur la terre. Et que le désert, bien sûr, c'est une image particulière pour se rappeler de ça, parce qu'il n'avait rien. Il n'avait rien au point que ils ont commencé à avoir de la rancœur contre Dieu, en disant, mais Dieu, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu nous as fait sortir d'Égypte, et puis maintenant on se retrouve dans le désert. Mais c'est quoi cette liberté ? Tu nous donnes la liberté par rapport à l'esclavage, ok, mais là, on va mourir. Et plusieurs fois, ils ont pris à partie Moïse, qui d'ailleurs a eu beaucoup de difficultés avec le peuple, et qui a même fait des bêtises sous la pression, parce qu'il n'y avait rien à manger. Et comment Dieu leur a donné à manger ? Entre autres, la manne, des cailles, voilà, il est intervenu surnaturellement. Parce que dans le désert, il n'y a rien qui poussait. Donc surnaturellement, Dieu leur a envoyé à certains moments des écailles, tellement que vous n'en pouvez plus. Hein. Mais bon, tout ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il y a deux choses qui se sont passées au moment où Jésus parle, là. Quand Jésus est monté, parce qu'il a accompli les mêmes fêtes que ses contemporains, la fête des récoltes, pour se réjouir de Dieu, et en logeant sous des tentes. C'est-à-dire que... Alors moi, c'est une découverte pour moi, quand je suis arrivé à Montréal... Pour mon service national, j'étais antimilitariste, hein, je suis toujours, mais j'ai pas voulu faire le service national, à l'époque c'était obligatoire, et donc j'ai demandé coopération, et on m'a muté à Montréal. Et j'arrive à Montréal, et puis, touriste classique, j'avais mon appareil sur moi, tout est nouveau, puis je voyais les gens qui me regardaient, mais... Comme ça, comme si j'étais pestiféré avec mon épouse Michel. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et en fait, le problème, c'est que sur l'appareil, c'est marqué Zeiss. Et Zeiss, c'est allemand. Hein, c'est l'appareil Zeiss. Okay. Et les Juifs, qui étaient dans ce quartier-là, parce qu'on cherchait un appartement, ben, ils ont repéré ça. Voyez ? Comme quoi, c'est assez sensible. Et puis, arrivé à la fête des huttes, on est arrivé en 1er septembre, un mois après... Je vois dans les jardins les huttes qui se montent. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'ai jamais vu ça. Des huttes. Dans les jardins, ils montent des huttes, des branchages, des machins et tout ça, à Montréal, en plein Montréal, quoi. Et j'ai dit, quoi ce truc-là ? Et on a dû demander au voisin, à notre caretaker, là, le gardien de l'immeuble, a dit, mais c'est la fête des huttes. C'est les juifs, là, parce qu'on était dans un quartier juif à Montréal. Voilà, mais on ne savait pas. On l'a vu après parce qu'il y avait des barbus, des tresses et tout ça, dans les jardins publics le samedi, où ils priaient. Donc j'ai découvert, parce qu'en France on ne voit pas ça, qu'ils fêtent la fête des huttes. Et ils font des huttes, et même à Montréal, ils ne mangent pas dans leur séjour, ils mangent sous les huttes. Ils vont dans les huttes qu'ils ont construites, ce n'est pas juste pour faire décorer, hein. Ils vont dans les huttes et ils mangent dans les huttes pendant ce temps-là. Pour se rappeler la situation précaire dans laquelle ils étaient au moment de la sortie d'Égypte. C'est une fête que j'intitulerai, qui est symbolique, de la liberté. Une fête de liberté. Une fête où ils ont acquis la liberté en sortant de l'Égypte et où ils ont été sous cette situation précaire, mais qu'ils ont joui de la liberté et des fruits de cette liberté, puisqu'ils pouvaient maintenant avoir tous ces fruits qu'ils apportent, ce qui n'était pas le cas dans le désert, mais aujourd'hui, maintenant, ils sont bénis. Alors, dans le temple de Jérusalem, où Jésus est allé, au centre de la fête, Jésus fait ses déclarations. Ces déclarations, un, surprenantes, et deux, provocatrice. Voyez-vous, Jésus est provocateur. Non pas pour provoquer, mais parce qu'il s'adresse à une humanité déchue qui a besoin de sauveur. Et nous aussi, on a besoin d'être provoqués par la parole, d'être interpellés par la parole. Parce que si la parole passe sur nous sans faire d'effet, eh ben on ne changera pas. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est pas surprenant ça, hein ? Vous sortez là et vous voyez quelqu'un qui monte sur un tonneau, ou qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hello ? Non, ça ne vous choque pas ? Oui, j'essaie de vous montrer l'aspect provoquant des paroles. Ce n'est pas une parole comme Diogène, un sage qui est sur son tonneau et qui dit « Connaissez-vous vous-même ?» etc. Bon, c'est de la sagesse. Là, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qu'il boive quoi ? Qu'il boive, etc. Oui. Deuxièmement, « Je suis la lumière du monde. » Oh, on croirait quelqu'un qui se prend pour la lumière. Et quelque chose qui fait référence au nom de Dieu, qui était un sacrilège pour les Juifs, si on prononçait le nom de Dieu, et Jésus le fait. Il dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors là, c'est le comble de l'horreur pour les Juifs, hein, c'est verset 24, on l'a lu tout à l'heure. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi c'est un sacrilège ? Pourquoi cette parole de Jésus est un sacrilège ? Pour les juifs. Vous voyez, vous êtes juifs là. Quand on lit la parole, il faut toujours se mettre en situation pour comprendre, sinon on ne comprend rien. Donc là, vous êtes juifs. Alors il faut avoir toute la pensée juive, l'Ancien Testament et tout ça. Et Jésus dit ça. Pourquoi c'est un sacrilège ? Pardon ? Il faut préciser, c'est un homme. Jésus est un homme. Hein, ce n'est pas un ange qui est descendu du ciel. Okay, c'est un homme. Donc un homme qui dit. Moi je suis, ça veut dire qu'il est Dieu. Alors, puisque Moïse a demandé, disons, dans le Sinaï, quand Dieu l'a envoyé vers son peuple, il a dit, mais au nom de qui je vais venir ? Il faut que je leur dise, qui m'a envoyé ? Qui es-tu ? Et Dieu a dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Ça, c'est Yahvé. Et c'est les quatre lettres qui font partie du tétragramme, hein, donc les quatre lettres, qui sont le nom de Dieu, qui n'est jamais, 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 jamais prononcé par un juif. On saute quand on lit, et on dit Adonai, on remplace ce mot. Vous voyez, il n'y a pas de traduction directe. Une traduction directe, c'est je suis celui qui suis. Mais jamais un juif va prononcer ce nom. Et Jésus l'a prononcé. Voyez-vous, la radicalité de l'évangile, la radicalité du christianisme, qui est qu'un homme se dit Dieu, et qui prouve qu'il est Dieu puisqu'il est ressuscité. Vous voyez, ça c'est la particularité, c'est aucune religion présente ça. Et c'est, nous sommes porteurs de ce message. Devant ces affirmations de sa divinité, eh bien, et les oppositions qui se lèvent. Par contre, contre toute attente, là pour cette fois-ci, au verset 30, il est dit « Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » C'est-à-dire qu'il y en a quand même des juifs qui ont commencé à croire en lui, malgré ses provocations. Et là, il s'adresse à ces juifs. Alors, il en remet une couche. Voilà ce qu'il dit. Il dit, donc, aux juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Encore un mot qui va blesser. Alors pourquoi ce mot va blesser ? Pourquoi cette affirmation de Jésus qui dit, si vous croyez en moi, demeurez en moi, et ma parole demeure en vous, et vous serez libre. Alors pourquoi ça choque ? Ben c'est dans le mot liberté. Le mot que Jésus utilise, ce n'est pas n'importe quelle liberté, c'est le mot qui est utilisé pour parler de la liberté qui sort de l'esclavage. Alors, il faut se rappeler un peu le contexte pour bien comprendre tout ça. Okay ? Et ça, ça va mettre le feu aux poudres. Là, ils ont pris des cailloux, ils ont voulu lapider Jésus, parce que là, même ceux qui ont cru en lui, ils ne pouvaient pas accepter ça. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent, mais attends, tu te fous de moi ? Tu te fous de nous, quoi ? Il dit, mais nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre ? Ils sont choqués. Il faut bien imaginer la scène hein, pour bien comprendre la parole. Et donc, Jésus renvoie à la liberté de l'esclavage. Et la réaction ne se fait pas entendre. Attendre, c'est qu'il y a une montée, une levée de bouclier contre Jésus. Mais c'est une ironie, c'est une très grande ironie. On est au moment de la fête des huttes. Cette fête rappelle la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils étaient en Égypte ? Ils étaient libres ou esclaves ? Esclaves. Et ils sont en train de reprocher à Jésus qui leur dit « Vous serez libres ». Et ils disent « Nous n'avons été esclaves de personne ». Vous entendez l'ironie ? Hello ? Qu'est-ce que ça s'appelle ça en psychologie ? Un déni. Ben, nous sommes exactement comme ça. Là, c'est l'application de la parole que j'essaie de vous transmettre. Les Juifs, à ce moment-là, ils sont dans le déni, alors qu'ils sont en train de fêter la fête du passage de l'esclavage à la liberté. Et quand Jésus leur parle aussi de liberté, ils disent « Nous n'avons été esclaves de personne ! Qu'est-ce que tu racontes là ? Hein ? Tu te fiches de nous ?» Jésus disait une vérité, et eux ne pouvaient pas l'accepter, parce que leur mémoire était courte alors qu'ils étaient en pleine fête pour leur fêter ça. Juste pour vous montrer que nous sommes pareils aussi. Nous sommes pareils. Nous sommes dans cette situation où nous sommes parfois dans des choses où la parole de Dieu nous reproche quelque chose et nous disent « Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, pas pour moi. Peut-être pour lui, pas pour moi. » Voyez ? Et c'est là que nous restons esclaves. C'est quand nous acceptons la vérité que nous pouvons sortir. Parce que Jésus disait une vérité. Le problème, c'est que cette vérité s'adressait à une question particulière de l'être humain qui n'est pas propre aux Juifs, qui est propre à tout le monde, c'est le péché. Aujourd'hui, essayez de parler du péché autour de vous. Hein, dans une réunion, voilà, entre amis et tout ça, eh bien, je vous paye tout ce que vous voulez, un pastis, que ça ne va pas très bien se passer. Ok ? Vous voyez, péché ? Mais c'est quoi ce truc-là ? Hein ? C'est le Moyen-Âge, ça. Quoi ? Tu es encore là-dedans ? Tu crois encore ça ? Et où ? Ben, comme les Juifs. On parle du péché. Pourquoi Jésus est venu sur la terre ? Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Baptiste ? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'évangile n'a pas changé. Le message de l'évangile n'a pas changé, mais ça choque. Tu parles du péché ? C'est quoi ça ? C'est arriéré, toi. Péché, c'est quoi ça ? C'est encore un truc la religion chrétienne là qui veut t'embobiner, qui veut te dominer, qui veut te manipuler, etc. C'est pas vrai. Je pourrais vous laisser tous témoigner des réactions, et on aura autant de réactions que de personnes, sur cette notion de péché. Or, le problème de l'humanité, c'est le péché. C'est le péché. C'est pas autre chose. La racine de tous les maux, c'est le péché. Le péché, c'est la séparation avec Dieu, c'est la désobéissance à la parole, etc. Et tous, nous sommes dans le péché. Nous avons besoin d'un libérateur et d'un sauveur. Un petit point de détail encore sur le contexte. À l'époque de Jésus, où ces paroles sont prononcées, il y avait un tiers, 30% de la population qui était esclave. Pour dire que c'est une réalité présente, hein, ce n'était pas 2%, 8%, 10%, non, 30% des personnes étaient esclaves. Dans l'Empire romain, il y avait 30% et ils n'avaient ni droit à se marier, ni droit sur leurs enfants. Ils étaient entièrement soumis à la domination de leur maître. On comprend mieux la difficulté pour un homme qui se croit libre d'être comparé à un esclave. Alors, c'est une réalité qui était plus forte aujourd'hui que le chômage. Donc, les Juifs, quand Jésus leur dit « je vous rendrai libre », c'est-à-dire de la position d'esclave à la position libre, ils disent « mais attendez, nous, on n'est pas esclaves. Nous, on est libres. On est citoyens des citoyens romains, d'ailleurs, comme Paul. Mais voilà, on est là, on n'est pas du tout esclaves. Hein, bien qu'il y avait des esclaves. » Donc, ça les choquait. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle choque. Parce qu'elle dit des vérités, mais dont nous ne sommes pas toujours conscients. Et alors, nous nous rebellons. Aujourd'hui encore, l'esclavage est une réalité. Là, j'ai juste deux exemples. Henriette Akofa, jeune fille du Togo, à qui on a fait miroiter l'Occident, et elle s'est retrouvée esclave domestique en France. Vous connaissez les esclaves domestiques ? Une autre jeune fille, Nadia, étudiante à l'université de Moldavie, a été enlevée, vendue, violée et contrainte à la prostitution. Ces deux femmes ont pu être libérées. Mais combien d'autres sont esclaves ? On estime aujourd'hui à 27 millions, aujourd'hui, et plus qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire, des esclaves de toutes sortes, sexuelles et autres. Et la traite des êtres humains rapporte 31 milliards de dollars, aujourd'hui, 2017. Rien qu'en Suisse. Il y a entre 1500 et 3000 personnes qui seraient esclaves à des fins d'exploitation sexuelle. Et ces chiffres sont terribles, mais combien les tragédies personnelles le sont encore plus si on les considère. Mais alors Jésus, comment peut-il utiliser une réalité aussi dure que ça et l'appliquer à la vie spirituelle ? N'est-ce pas une insulte envers ceux qui souffrent de cet esclavage ? Le problème, c'est que c'est l'esclavage du péché. Jésus voulait, à ce moment-là, désigner « vous êtes esclave ». Alors, bien sûr, il n'aura pas tout dit. Il l'aura dit dans d'autres contextes. « Vous êtes esclave du péché ». Quand on est esclave du péché, on a un maître. C'est le péché. On est esclave à qui on est soumis. Si notre maître, c'est le péché, on est esclave au péché. On ne peut pas s'en sortir autrement que de le servir. Si on est esclave de Dieu, on est esclave de Dieu. Et c'est lui qui nous... Vous voyez, donc c'est un choix. La parole de Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie afin que tu vives. Mais la mort, c'est la conséquence du péché. Et aujourd'hui, le péché est toujours là, parce que sinon il n'y aura plus la mort. Si Jésus se permet ce parallèle entre cette terrible réalité de l'esclavage et notre état spirituel, c'est que la situation où nous nous trouvons est véritablement dramatique. En effet, tout esclavage humain a pour origine un autre esclavage plus grave, c'est celle du péché, et plus profond, plus répandu, et aux conséquences plus terribles, cet esclavage asservit tout l'être humain. Et qui se laisse prendre au péché, au piège. C'est des pièges. Le péché, c'est un piège. Parce que dans Jean 8, 34, Jésus va dire « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Et si les auditeurs de Jésus réagissent si fort à ces affirmations, c'est qu'ils sont touchés dans leur orgueil de l'homme libre. Nous, nous sommes libres. Voyez-vous, quand on est dans cette position de dire « Oh non, non !» On me parle de péché, mais moi, je suis pas pécheur. Moi, je suis libre. On est dans l'orgueil. L'orgueil, c'est de croire que nous avons raison et que ce que la parole de Dieu dit, c'est faux. Et l'orgueil, c'est ce qui précède la chute. Satan, il est tombé dans l'orgueil. Et voilà ce que ça donne. Il entraîne derrière lui le monde entier dans l'orgueil, dans la chute. Mais nous avons un sauveur, Jésus, qui est venu et qu'est-ce qu'il a fait avec le péché ? Il l'a cloué à la croix et il a réglé la question du péché. Jésus est venu régler la question du péché. Voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Si nous, en tant qu'Église chrétienne, nous perdons de vue et de proclamation et de parole cette réalité, nous avons tout perdu. Tout perdu. Notre message, notre témoignage et tout, il ne vaut plus rien. Parce qu'en fait, on se met au niveau de toutes les autres religions qui aussi parlent de salut. Ils parlent de salut, c'est vous serez sauvés, etc. Mais le salut que nous avons en Jésus-Christ, c'est sur le péché. C'est la croix. Amen. Face au péché et à ses tentations, combien de fois nous sommes-nous bercés de l'illusion de nous en sortir tout seuls? Hein, on est dans un problème, on est dans une addiction, on est dans quelque chose. Oh, je m'en sortirai tout seul. Non, non, non. Le péché, il faut qu'il soit amené à la croix. C'est le seul endroit où il y a une véritable libération. Nous sommes bercés aussi par la force de notre volonté. J'y arriverai. Non. Que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie et tout ça, et bien d'autres. Non, non, c'est pas par la volonté que nous pouvons gagner notre liberté. C'est par Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Nous sommes dans un monde d'illusions. Et Jésus nous invite à avoir un regard lucide sur toutes les situations. Si nous commettons le péché, nous sortons du chemin tracé pour nous par Jésus. Et nous devenons esclaves du péché. Et le péché devient notre maître et il nous emprisonne et nous empêche même de vouloir ce qui est bon et bien. Et petit à petit, l'esclavage ressemble à son maître jusqu'à devenir un fils du diable. Voilà ce que Jésus dit. Il dit au verset 44 de tout ce développement que Jésus a en entretien avec ceux qui ont cru en lui, hein, les juifs qui ont cru à lui, pas ceux qui sont opposés ni les pharisiens. Il dit, vous avez pour père le diable. Waouh! Aujourd'hui, il ne faut plus parler du diable. Hein. Moi, un jour, j'ai mangé en face le restaurant. De temps en temps, on peut y aller. Il fait des bons restaurants, des bons plats. Prix coûtant, puisque c'est des jeunes en réinsertion qui apprennent l'hôtellerie. Et j'étais avec le vicaire général de Versailles qui pouvait être évêque, mais qui ne l'a pas été. Et il m'a dit, le diable, non, non, ça n'existe pas, le diable. D'accord, je ne savais pas. Non, non, non. Et pendant le repas, il m'a un peu mis sur le grill là-dessus. Il dit, non, non, le diable, non, non, c'est un principe. Voilà, c'est une force, c'est quelque chose, mais non, c'est pas une personne. Voilà. Et il m'a tenu ça pendant toute une partie du repas. Quoi. J'ai rien dit. Je dis, on peut pas le convaincre du contraire. Hein. En plus, c'est lui qui instruit tous les catéchumènes et toute l'Église catholique, donc je ne vais pas me mettre à dos, ça ne sert à rien. Il n'y croit pas. Voyez, donc si vous ne croyez plus en une personne qui est venue en personne attaquer Jésus, hein, et que Jésus dit « Vous êtes fils du diable », comment voulez-vous avoir un sauveur après qui vous libère de celui qui manipule le péché, qui vous manipule pour que vous puissiez pécher davantage? Alors il dit, Jésus dit, « Eh bien, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. » Et lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, et il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous m'en convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Voyez-vous, Jésus, il dit la vérité. C'est vrai qu'elle est choquante, mais elle est vraie. De s'entendre dire qu'on est fils du diable, c'est difficile à avaler. Alors, je ne voudrais pas rallonger trop le message ce matin pour aller droit au but, pour vous montrer que nous avons besoin de prendre conscience dans quel pays nous sommes et ce que nous vivons aujourd'hui. Et je vais vous montrer trois symboles. Parce que l'avantage du langage symbolique, contrairement au langage que j'utilise là pour vous parler, qui est des mots, et puis après, avec ces mots, vous avez des images, des représentations, tout ça. Le symbole, ça présente une réalité qui englobe tout un message, tout un tas de mots les uns après les autres. Alors je vais vous montrer les symboles qui manifestent aujourd'hui l'orgueil des Français qui sont à la tête au niveau mondial, parce que la France a toujours été le pays qui montre la lumière aux autres, mais pas forcément la bonne lumière. Alors, il y a eu les deux, hein. On a eu beaucoup de missionnaires chrétiens, en particulier en Afrique, qui sont reconnaissants de ce que ces missionnaires ont donné leur vie. Mais il y a aussi l'inverse. Et quand on parle de Paris, ville lumière, ce n'est pas la bonne lumière, hein. C'est malheureusement la lumière de l'orgueil. Je vais vous montrer trois symboles et je vais voir si vous les reconnaissez pour que ça vous frappe. Je voudrais vous frapper ce matin, comme Jésus, pour que vous puissiez comprendre qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde où on va s'amuser, jouer sur la place publique, chanter et danser avec la flûte, comme le dit, et personne ne répond. C'est qu'on est dans un monde de réalité qui nous emmène à la catastrophe. Je vais vous montrer laquelle. Alors, je vais vous montrer les trois symboles. Je ne sais pas si vous allez les reconnaître. Enfin, si, certains sont faciles à reconnaître, d'autres sont un peu moins. Voilà. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. C'est quoi ce symbole-là? Ah, je peux décaler, pardon. Ça m'évite de faire un tas de discours. Il y a ce symbole-là, ce symbole-là et ce symbole-là. Bon, c'est pas très bien dessiné, je vous l'accorde. Je suis désolé. J'aurais mieux fait de prendre des projections. Oui. Très bien. Ça, c'est la statue de la liberté. Très bien. One. Two. Oui. Chapeau, Charles. C'est le bonnet phrygien. Bon, j'aurais dû le dessiner en rouge, hein. Il est complètement rouge. Le bonnet phrygien. Vous connaissez pas le bonnet phrygien? Ouvrez votre portefeuille, regardez un timbre. Toutes les Mariannes ont les bonnets. Enfin, toutes, non. Oui? Oui, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer parce que c'est des symboles qui sont directement en rapport avec les textes que nous venons de voir que Jésus évoque avec les Juifs. Le bonnet phrygien, bon, je veux quand même le dire pour tout le monde que le bonnet phrygien, c'est un bonnet rouge. D'ailleurs, vous voyez en ce moment dans les manifestations, souvent ils le portent. Hein. Ceux qui sont avec Jean-Luc Mélenchon, ils ont souvent les bonnets phrygiens. Souvent dans les manifestations en France, ils ont bonnets phrygiens. Ok ? On est tous là ? Le bonnet phrygien, c'est un bonnet rouge qui a été porté à l'époque de Jésus et même avant par les Phrygiens. La Phrygie, c'est l'ancienne Turquie. Enfin, c'est la Turquie actuelle. C'est la Phrygie. À l'époque. Et en Phrygie, quand des esclaves, puisqu'il y avait plus d'un tiers d'esclaves à l'époque, il y avait l'État, quand un esclave devenait libre, parce qu'il y a des maîtres qui pouvaient les racheter, les esclaves, moyennant finance, et leur donner la liberté par l'argent. Et du coup, ils devenaient adoptés comme leur fils et tout ça. Et ils avaient le même droit. Donc un esclave pouvait passer de l'état d'esclave à l'état libre. Et il portait un bonnet phrygien pour montrer dans la rue, parce qu'ils étaient connus. Ah oui, c'est un esclave, c'est un esclave, c'est un esclave, ils étaient connus. Et bien, quand il y avait le bonnet phrygien, et bien, ils étaient reconnus comme maintenant ils étaient rachetés et qu'ils étaient libres. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va? Ça s'appelle le bonnet phrygien. Et les révolutionnaires, en 1789, les sans-culottes et tout ça, ils ont pris ce bonnet phrygien, parce qu'ils connaissaient leur histoire, et ils l'ont pris, ce symbole, c'est un symbole de liberté. Allô? C'est bon? Voilà. Donc aujourd'hui, il est toujours valable. Hein, c'est le symbole révolutionnaire de ceux qui se rappellent la Révolution française de 1789 ou la prise de la Bastille, etc. Bon, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Ça, c'est le symbole de la liberté. Hein, vous l'avez reconnu. Hein, la fameuse femme qui tient la lumière, ici un flambeau, qui se trouve à l'entrée de New York. Bartholdi qui l'a offert aux Américains. Et il y a une reproduction en maquette sur le premier pont à l'entrée de Paris. Je ne sais plus lequel pont. Alma? Je ne suis pas sûr. Bon, qui est la reproduction de la statue de la liberté. À Colmar aussi. Oui, parce que Bartholdi est de Colmar. Voilà. Donc à Bartholdi, j'étais étonné. L'autre fois, je passe le rond-point de Colmar, une grande statue de la liberté. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Pardon? 8 mètres de haut, oui, vous ne pouvez pas passer à côté. Elle est énorme, hein, Colmar. Parce que Bartholdi, il vient de Colmar. Celle-là, c'est plus dur à trouver, sauf pour les cinématographes. Ceux qui... Il y en a qui aiment le cinéma, là? Alors, cherchez dans le cinéma le symbole. Alors, vous savez, on vit avec son époque. Hein. Ici, c'est en 1789, 18e siècle. Ici, c'est en 1889, parce que la Tour Eiffel, Bartholdi, tout ça, c'est la même époque. Hein. On fête les 100 ans de la Révolution. Et donc, il y a cette statue-là. Et là, ça ouvre le 21e siècle, fin du 20e et début du 21e siècle, un cinéma, un film qui a été fait pour montrer le début d'un nouveau siècle dans cette liberté qui a un autre sens et dans lequel on trouve. Et si vous comprenez ça, vous comprenez comment aujourd'hui les Français et le monde entier qui sont contre le péché, qui sont contre le message de l'Évangile, qui sont contre la Bible, qui sont contre Dieu, réfléchissent. Ça, c'est des symboles de réflexion sur qui on est. Ici, on est libre, libre de la noblesse, libre des rois, libre du clergé. Vous voyez, parce que à l'époque, ils ont tué, je ne sais pas combien, de milliers de prêtres qui ne se convertissaient pas au laïcisme, etc. Vous voyez, c'est une destruction massive de l'ancien régime pour faire un nouveau régime. Ici, c'est le symbole de la lumière de la science et de la technique. Mon épouse, la Michelle, quand ses parents sont morts, il fallait nettoyer le grenier, vider le grenier, comme souvent on le fait. Donc, il a dit, tiens, il y a un gros bouquin comme ça. Super, il était, je ne sais plus, bon, elle serait là, elle est très bien illustrée, des très belles images, tout ça. Et j'ai commencé à la lire. Et j'étais étonné, ça a été écrit en 1889, hein, pour la fête à Paris, comment ça s'appelle, quand on a inauguré, pardon, l'exposition universelle, ouais, quand ils ont inauguré la Tour Eiffel. Et j'étais étonné de lire, je l'ai encore à la maison, dire, dans ce livre-là, il disait au XXe siècle, c'est-à-dire que le siècle qui va suivre, donc ça annonce le siècle qui va suivre, on résoudra tous les problèmes de l'humanité. Tous les problèmes seront résolus par la science et la technique. Tous les problèmes, santé, finances, tout ça, c'était écrit noir sur blanc, hein, je peux vous le montrer, je l'ai chez moi. Hein. Même pas besoin d'aller dans une bibliothèque. On a vu deux guerres mondiales avec des massacres inimaginables. Ah, vous voyez, la désillusion. Satan fait miroiter que la lumière qui va venir sur le monde, de la science, de la technique, va résoudre tous les problèmes de l'humanité, et patatrac, on se ramasse deux guerres mondiales. Vous voyez la désillusion, ça s'appelle le désenchantement. Les hommes ont été désenchantés, et sont désenchantés. Et là c'est toujours le casse-tête des cinématographes que j'attends, parce que le cinéma aujourd'hui est un art qui est utilisé partout, hein. Vous avez YouTube, vous avez machin, enfin, vous utilisez partout les médias. Donc aujourd'hui, ces messages-là sont traduits dans les médias, et plus sous forme d'icônes physiques ou autres. Alors, il y en a qui trouvent ? Ça fait pas longtemps que je le sais, parce que le Seigneur m'a dit, il faut absolument que tu vois ce film-là. Je dis, ah bon, pourquoi ? Ça m'intéresse pas ce film-là. Il dit, si. Non, c'est pas le Seigneur des Anneaux. Alors j'ai dit à Michel, écoute, il faut qu'on voit ce film-là. Il dit, oh là là, j'en ai marre. Je veux voir des films comiques, des films qui me... Voilà, mais pas ce film-là. Je dis, écoute, je ne sais pas. Le Seigneur me demande de le voir. Et il fait, non, c'est pas Star Wars. Alors peut-être que personne ne l'a vu hein, dans la salle. C'est l'Odyssée de l'espace. Quels sont ceux qui l'ont vu? Quels sont ceux qui l'ont vu? Hein? Kubrick. 2001. Et c'est pas n'importe quoi, il a eu la pression pour le sortir en 2001. Il a chaud parce que ceux qui l'ont commandité, il fallait qu'il sorte à ce moment-là. Un, deux, quels sont ceux qui l'ont vu ? Bon, alors je vous demande pas de le regarder parce que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Michel a dit, mais qu'est-ce que ces trucs-là, on ne comprend rien, machin, etc. Ben, c'est rempli de symboles. Et le symbole que vous voyez en premier, au début du film, c'est ça. Et vous le voyez régulièrement dans le film jusqu'à la fin. Ce symbole-là, bien sûr, vous ne comprenez rien. Hein. Si on ne vous l'explique pas, vous ne comprenez pas. Mais ça, c'est ce qui va gérer le XXIe siècle. Et l'Odyssée de l'espace a été sortie pour donner un message à ceux qui croient à ça. Maintenant, c'est votre siècle, vous allez vivre cette liberté. Et cette liberté, c'est quoi? Au début, vous voyez des singes au début, et d'un seul coup, il y a une pierre noire parallélépédique qui est très haute, fait 7-8 mètres de haut, et cette pierre noire, les singes sont là, et ils essaient de l'approcher, tout ça. C'est quoi cette pierre noire? Cubique, enfin cubique, parallélépédique. Mystère. Et au-dessus, quand vous levez vers le ciel, vous avez la lune et le soleil qui se met à briller. Ça, pour ceux qui s'y connaissent, ils savent très bien ce que ça veut dire. Mais vous ne savez pas. Ouais. Ben, c'est l'adoration de la nature. Soleil, la lune. Bon, franc-maçonnerie, c'est classique. Hein, c'est ce qui est la base des symboles franc-maçonniques. Et cette pierre noire, c'est l'homme qui se divinise. L'homme noir qui passe du plomb à l'or. C'est-à-dire qu'il va se transformer grâce à la mère nature qui va me transformer. On est dans l'adoration du panthéisme. Le panthéisme, c'est ce qui, aujourd'hui, dans le XXIe siècle, va gérer. Alors, attachez vos ceintures. Parce que le panthéisme, ça va emporter tout sur son passage. Vous allez adorer les pierres. Vous allez adorer le soleil, la lune. Et tout ça, vous allez vous adorer vous-même. Parce que c'est Mère Nature qui vous a créé, bien sûr. Ce n'est pas Dieu qui parle du péché, c'est quoi ce truc-là? Le péché, dans le Nouvel Âge, c'est Nouvel Âge, hein, Nouvel Âge n'existe pas. C'est une aberration mentale du christianisme. Simplement, vous manquez de connaissances. Vous voyez, là, personne. Ça, c'est de la connaissance. Quand vous avez cette connaissance, et ça, c'est l'orgueil suprême. Et on passe d'un orgueil à un autre, qui est crescendo. Là, c'est l'orgueil. On se sent libre du clergé qui opprime, donc l'Église catholique. On se sent libre de la noblesse, donc on coupe les têtes. Et on dit, nous, on est libre. On s'affiche libre. Et quand vous dites à des Français, ben non, vous n'êtes pas libre, ben, vous passez pas très bien. Ici, science et la technique qui vont libérer l'homme. Et qui vont lui apporter la liberté. Et ici, c'est le Nouvel Âge, c'est le spiritualisme, c'est la spiritualisation. Et Malraux, qui était le ministre de la Culture, a dit « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. » À bon entendeur, salut. Il est spirituel, mais c'est un spiritualisme qui adore la nature. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est suffisamment parlant pour nous montrer que les Français qui, eux, veulent être libres, alors ça dépend comment on conçoit la liberté, voyez-vous. Si on la conçoit comme étant indépendant, si je suis indépendant, je suis libre. Moi, j'étais à Paris dans les années 68, enfin j'étais plutôt à Chalon, mais j'étais à Paris. Et dans les bouches de métro, il était marqué « Il est interdit d'interdire ». Oui. En 1789, on a dit « On va être libéré de la noblesse et du clergé qui nous opprime, qui nous impose leur truc ». Et en 68, on a dit « On veut être libre de tout, des mœurs, on veut faire ce qu'on veut sur le plan sexuel, on veut faire... » Voilà, parce qu'il y avait les institutions encore qui existaient à l'époque et qui disaient « ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. » Et les étudiants à l'époque, ils ont dit « non, on veut être libre, point barre. » Les parents, à côté. Les instituteurs, à côté. Tout à côté. Nous, on veut... Ils pensaient que c'est ça la liberté. Et voyez aujourd'hui ce qu'on récolte de cette liberté. Mai 68, liberté des mœurs. Okay. Donc liberté politique... Liberté de la science, mai 68, liberté des mœurs. Et on rentre dans le nouvel âge du Verseau. Alors que la Bible est dit, nous sommes libres si nous sommes dépendants de Dieu. Vous voyez, c'est l'inverse. La liberté conçue par le monde, c'est être libre de tout. Le seul problème, c'est qu'il s'illusionne. Et comme là, il y a eu deux guerres mondiales, je ne vous dis pas ici les guerres qu'il va y avoir, parce qu'on se confie dans la mère nature et on se confie dans quelque chose qui est d'une vanité inimaginable, comme au temps préhistorique où on adorait la lune, le soleil, etc. Ceux qui encouragent de voir ce film, regardez-le dans cet esprit-là et vous comprendrez tout. Que tout est décrit de ce qui va se passer. Celui qui a fait le cinéma, il savait ce qu'il faisait et il décrivait ce qui va arriver au XXIe siècle. Ceci pour dire que nous, nous sommes de ceux qui comprenons que la liberté, c'est quand nous sommes soumis à Jésus, quand nous sommes soumis à Dieu, quand nous sommes soumis à sa parole, quand nous sommes soumis à ses commandements, quand nous sommes soumis, et pas non, quand nous sommes indépendants. Parce que Dieu a fait de nous un être communautaire. Et la communauté de l'Église, c'est celle qui doit montrer au monde que nous sommes en relation avec les autres tout en étant soumis à Dieu. Vous voyez, ça c'est la dimension de l'Église. Si nous ne comprenons pas cette dimension de l'Église, bien sûr, chacun va aller dans son sens. Ah oui, mais l'Église m'a fait ceci, l'Église m'a fait cela. Et vous trouvez tout plein de chrétiens isolés. C'est pas vrai? Vous en connaissez certainement. Ils ne veulent plus aller dans l'Église parce qu'ils ont été blessés, machin, etc. Oui, parce que l'ennemi s'arrange pour que ça arrange comme ça. Parce qu'il sait qu'une communauté d'amour, où les gens acceptent, bien sûr, les défauts les uns des autres, mais qui comprennent que le salut, c'est dans le fait que nous apprenons les uns des autres à nous soumettre aussi les uns les autres, soumettre à Dieu, soumettre les uns les autres. Et ça, c'est un apprentissage qui n'est pas facile, hein, le faire aiguise le faire. Mais en même temps, Dieu a prévu ça. Et dans cette communauté, mais nous allons pouvoir contrer ça. Tout seul, personne n'y arrivera. Personne n'y arrivera. Oui. Eh oui, tout ce qui est institutionnel. Voilà, je termine en disant la liberté de la Bible. Hein, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Comme ça, c'est très clair. Si vous n'acceptez pas la liberté que moi, je vous propose. Et cette liberté, il y a un certain nombre de caractéristiques, et je termine là-dessus. Un, elle doit consister à choisir, pas se laisser aller à la nature. Au sexe, aux drogues et tout ça. Tout ça, c'est de la nature. Tout ce qui te pousse, tout ce que tu as envie, tous les plaisirs et tout ça, fais-les. Okay ? Non, c'est choisir. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu... C'est choisir. Nous devons avoir une colonne vertébrale pour choisir les choses avec l'aide du Seigneur. Deuxièmement, nous devons être disciples. Un disciple est soumis à son... Et votre maître, c'est... Et pas le péché. Troisièmement, la liberté consiste à faire appel à un libérateur. C'est qui le libérateur ? Jésus, c'est une personne. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une force. Quatrièmement, la liberté consiste à s'attacher à la vérité. Jésus le dira plus loin. Jean 8, 31. La vérité vous libère. Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est le mensonge. Mais les gens y croient. Pourquoi ? Parce que ça fait... C'est plaisir. Vous pouvez faire du sexe autant que vous voulez. On vous offre tout ce que vous voulez. Voilà. Tous les plaisirs sont possibles. Non, c'est la vérité qui vous libère. La vérité, ce n'est pas l'illusion. Et dernier point, la liberté est progressive. Travaillez votre salut. Philippiens 2, 12 et 13. Vérité, liberté progressive. Et c'est pour ça qu'on fait le torrent qui purifie, maintenant le ministère de libération en Christ, réconciliation en Christ, parce que nous croyons que le premier devoir de l'Église, d'une Église que nous sommes, c'est d'offrir à chaque chrétien la possibilité d'augmenter ses degrés de liberté, d'être plus libre. Plus libre, de moins être attaché au péché, de moins être attaché aux addictions, de moins être attaché aux névroses des unes des autres. Alors, rassurez-vous, on ne cherche pas à ce que vous soyez parfait comme Jésus. Ça, on le sera quand on sera avec lui. Mais ça peut énormément vous aider et surtout aider la communauté à avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Plus on est libéré, plus on peut être soi-même et plus on peut apporter à l'autre et plus on peut être équilibré, plus on peut être mûr dans les relations, plus on peut faire des projets comme ceux qu'on a vus pour toucher la ville, toucher la cité, etc. Mais quand on est enfant, on ne peut pas. Et Paul montre trois catégories dans 1 Corinthiens 3. Il dit, il y a les chrétiens qui sont népios, des enfants, des chrétiens qui sont sarkonoi, qui sont charnels, et des chrétiens qui sont pneumatikos, spirituels. Et il s'adresse aux Corinthiens en disant, je ne peux pas vous apporter des choses solides parce que vous n'êtes que des enfants. Et Paul le dit clairement, vous êtes des enfants. Je ne peux pas vous apporter. Et nous, on a besoin de grandir pour passer de l'enfant au charnel. Vous voyez, le charnel, c'est le deuxième niveau. Et nous sommes tous charnels. Mais il faut que nous devenions spirituels. Pneumatikos, des enfants mûrs. Et c'est le rôle des ministères d'Éphésiens 4:10. Quand la Bible dit que Jésus est monté au ciel et il a donné des dons aux hommes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il les a donnés pourquoi ? Non pas pour dominer, pour édifier l'Église, édifier chacun, pour amener l'unité dans la foi et la perfection en Jésus-Christ. Ça, c'est le rôle des cinq ministères. Et c'est dans cela que nous devons progresser de gloire en gloire. Et quand nous progresserons, bien tous, en tant qu'Église d'Auvergne, nous pourrons aussi avoir un plus grand rayonnement. Et les gens diront, ah, j'ai envie d'être comme eux. Amen. Vous avez à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et même si elle nous choque, ou si elle a choqué, Seigneur, les interlocuteurs de ton époque, Seigneur, il vaut mieux que nous soyons choqués, mais que nous puissions changer. Et que nous puissions, Seigneur, comprendre que nous sommes dans une époque où les enjeux sont immenses parce que, Seigneur, si la majorité et même la totalité de l'humanité se laisse entraîner, nous voulons aller à contre-courant. Et Seigneur, te garder comme maître, te garder comme Seigneur, comme libérateur, comme celui qui nous donne le Saint-Esprit, qui nous donne la force de résister à ce courant. Seigneur, nous sommes incapables de le faire par nous-mêmes. Mais avec toi, avec ta grâce, nous pouvons y arriver et nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.